il a ressuscité tout ce qui est en moi. Et depuis que je le chante ce matin, je pense à bien de choses. Je pense à mes moments de doute. Je pense au moment où j'avais l'impression que plusieurs choses s'arrêtaient et Dieu les a remis en scène. Masiyaza lili c'est quoi? Ase kuisinyo so yangai. Sokinga ina kotemba. Lokumwezo ngela nkolo. Kufeti ki esika. Na mwana pate na nzambe.
Sokinga ina kopemba. Lokumwezo ngela nkolo.
Masiyaza lili sekwa. Ase kuisinyo so
yangai. Ase kuisinyo so yangai.
Sokinga ina kopema. Lokumwezo ngela nkolo. Y a-t-il quelqu'un qui veut le crier Masiya?
Masiyaza lili sekwa.
Ase kuisi.
Ase kuisinyo so yangai. Sokinga ina kopema. Lokumwezo ngela nkolo.
Masiyaza lili sekwa.
Masiyaza lili sekwa.
Ase kuisi.
Ase kuisinyo so yangai.
Ase kuisi elikia nangai.
Sokinga ina kopema.
Ase kuisi koseka e kufangina bomo inanga.
Kufetiki esika.
Na mwana pate na nzambe.
Na mwana pate na nzambe.
Sokinga
ina kopema.
Lokumwezongela
nkolo.
Masiyaza lili sekwa. Ase kuisi
nyonso yanga. Sokinga ina kopema.
Lokumwezongela
nkolo.
Kufa.
Kufeti ki esika.
Eza na chwate.
Na mwana pate na nzambe. Sokinga ina kopema.
Lokumwezongela
nkolo. Masiyaza lili sekwa. Ase kuisi nyonso yanga. Sokinga ina kopema. Lokumwezongela nkolo.
Pate na nzambe. Sokinga ina kopema. Lokumwezongela nkolo. Seigneur, ces chants, c'est les témoignages de ma vie. Tu es celui qui redonne la vie aux choses mortes. Tu es celui qui relève ceux qui tombent. Tu es le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu capable. Et ce matin, tu me donnes le privilège de me tenir devant ce peuple. Je ne me tiens pas en professionnel, en habitué de la prédication. Chaque fois qu'il m'est donné de partager ta parole, je considère cela comme une grande responsabilité. Aide-moi à partager cette parole ce matin telle que tu veux que je puisse le faire. Fais du bien à quelqu'un au travers de ma faible et petite personne. Fais-le pour ta gloire, mais pour notre bien. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu soit béni. Bonjour à tout le monde. Et bonjour aussi à vous qui nous suivez ou qui nous suivrez plus tard au travers des médias. Que Dieu vous bénisse. J'aime acquitter de ces devoirs que je pense que la bienséance m'impose. D'abord de rendre grâce à Dieu qui permet que je me tienne devant vous, mais surtout de dire un grand merci à mon frère, mon collègue dans l'œuvre de Dieu, le pasteur Hugues, pour la main tendue et cette considération à mon égard, un grand merci. Je voudrais lire avec vous deux portions des Écritures. 2 Samuel chapitre 5. Notre lecture va du premier au cinquième verset. Et la seconde lecture, nous la faisons toujours dans 2 Samuel, cette fois-ci au chapitre 11, versets 14 à 17. Et puis versets 26 à 27. C'est un même thème, mais que je vais aborder en deux temps. Une première partie au premier culte et l'autre est partie au second. Donc si vous voulez avoir le 2, vous avez l'option soit de revenir au second ou de chercher les supports du second. Je dirais aussi à ceux du second de chercher les supports du premier. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà lorsque Saul était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. 2 Samuel chapitre 11, 14 à 17 et puis 26 à 27. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. 26 à 27, la femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. J'ai tendance à dire un faux deuil, un deuil théâtral. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Mais écoutez la fin, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce matin, j'aimerais parler sur le thème « Les leçons de David, le berger devenu roi ». Les leçons de David, les bergers a devenu roi. Sur David, beaucoup a été dit, beaucoup de choses enseignées, plusieurs prédications, sermons, études. Et pourtant, il y a encore beaucoup à dire concernant ces personnages. Beaucoup à dire à cause de ce qu'il a connu, à cause de tout ce par quoi il est passé. Un petit garçon, et rien du tout, bon Dieu a transformé la vie. La première fois que le nom de David apparaît dans la parole de Dieu, c'est dans 1 Samuel chapitre 16, versets 12 à 13. Une séquence alors que le roi Saül a fauté, il ne marche plus comme Dieu aurait voulu, et Dieu décide non seulement de le mettre de côté, mais de choisir quelqu'un d'autre, comme tu dirais. Dans les choses de Dieu, dans la vie tout court, aucun n'est indispensable. Dieu sait mettre de côté quelqu'un malgré son potentiel, ses aptitudes, et prendre d'autres personnes. Et Dieu donne une mission au prophète Samuel, il dit, va dans la maison d'Isaïe, car j'ai choisi un roi. Et Samuel arrive, il sait qu'il y a un roi dans cette maison, mais il ne sait pas de qui il s'agit. La preuve, il va se tromper quand il voit Eliab, il voit sa stature. Il s'est dit, sûrement c'est lui. Mais ce que j'aime, c'est que si l'homme peut se tromper, lui, il ne se trompe jamais sur la tête où elle doit être déposée. Parce qu'au moment où il voulait verser l'huile, sa main a bloqué, Dieu lui a dit, c'est pas lui. Et puis il a vu Shaman, il a fait passer tous les autres. Et finalement, il avait l'impression que sa mission tendait vers un échec, un fiasco. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, Dieu m'a dit que c'est dans cette maison. Et puis, il a demandé au Père, « Sont-ce là tous tes fils ?» Presque comme en minimisant, il y a un tout petit qui est en train de garder. Dans sa pensée, il dit, « Je ne pense pas qu'il soit un cheval partant pour la course. » Mais image bouleversante, alors que ce jeune homme avait l'habitude de garder les troupeaux de son père, on dit habituellement qu'il quittait déjà vers 6h30 à 7h. Et revenait jamais avant 6 heures du soir. Et les commentateurs disent que c'est entre 11 heures et 12 heures qu'on est allé les chercher de manière impromptue. On est venu les chercher, David. Aujourd'hui, tu dois rentrer à la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a un vieil homme qui est venu là. Et puis, il a besoin de toi. On ne sait pas pourquoi. Et le plus étonnant, c'est qu'à peine David arrive, David dit, l'Esprit dit à Samuel, c'est lui, où aller? L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où aller, car c'est lui. Il avait dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite. Cette séquence de 1 Samuel 16, versets 12 à 13, nous enseigne trois vérités sur lesquelles je voudrais insister avant d'aller plus loin. La première vérité, c'est que Dieu est le seul capable de voir en nous ce que ni nous-mêmes ni les autres ne voyons. Alors que pour ses parents, ce n'était qu'un petit garçon, alors que pour ses frères, ce n'était qu'un tout jeune homme, un tout petit jeune homme, Dieu a vu le roi qui sommeillait dans l'enfant. Dieu est le seul capable de voir ce que ni nous-mêmes ni les autres ne voyons et ne peuvent soupçonner. Il a vu le roi qui sommeillait dans l'enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es plus grand que ce que ton aujourd'hui te dit. Tu n'es que dans une phase de ta progression. Qu'il est étonnant de savoir que la royauté peut sommeiller dans un petit berger qui n'en a aucune idée. La deuxième chose que cette scène nous apprend, c'est que Dieu n'a pas peur d'assumer ses choix. C'est lui, où aller? Mais la Bible ajoute encore, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit où? Au milieu de ses frères, au milieu de tous ceux qui, comme lui, aspiraient aussi à la royauté. Au milieu de ceux qui avaient les mêmes ambitions, au milieu de ceux qui pensaient peut-être avoir plus d'aptitude, on les oint. C'est lui le roi. Et il était de coutume que les prophètes Israël, voici ton roi. Samuel, tu n'as pas pensé au cœur des autres, à leur émotivité. Au qu'en dira-t-on? J'ai l'habitude depuis maintenant 2 ans d'enseigner les serviteurs de Dieu dans une structure chez nous au pays que nous appelons les Fers Aiguisent les Fers. Il y a 1 mois et demi, j'ai parlé du leader spirituel et les décisions et les choix. Je dis, si vous êtes un leader que vous ne savez pas prendre des décisions, lever des options et les assumer, vous ne pouvez pas aller loin. Il est oigné au milieu de ses frères. Il a choisi. Et je donne l'exemple de Christ qui avait une pépinière, une présélection de 70 personnes, tout aspirant à devenir apôtre. Mais il savait que c'est de ces 70 qu'il allait retirer un noyau de 12. Et la Bible montre qu'il a passé toute la nuit à prier, comme pour dire aussi qu'on est leader, on veut faire des choix, il faut s'attacher à Dieu. Et Dieu l'a conduit dans les choix. Mais même si on prie, il y a un moment, il faut assumer les choix. Et tel que les évangiles les montrent, il avait appelé tout le monde, comme à la proclamation, nous, quand on était tout petits à la tenue de Kalina vers les années 69-70, pour montrer que je ne suis pas né hier, mais avant-hier. Et des 70, chacun le cœur battant la chamade, il commence à appeler Pierre, viens ici. Matthieu, il est où? Et Thomas? Et puis à la fin, il dit, à partir d'aujourd'hui, les 12 deviennent des apôtres. Vous, vous restez des frères quiconque. Vous dites amen. Et c'est une grande joie quand tu fais partie de 12. Tu vas vers l'autre, tu tapes même la main, mon cher. Tu sais le suspense que j'avais quand on est arrivé à 10. Je me demandais, parmi les 2 qui restent, est-ce que je ferai partie? Mais que faire quand on reste parmi les 58? Si on n'est pas fort, on commence à critiquer 2 directions. Celui qui a fait les choix et les choisis. Est-ce qu'il a vraiment... Celui qui a choisi, est-ce qu'il a réfléchi? Puis on commence à crier, bon, Matthieu, je peux accepter un peu. Pierre, mais Thomas, il me dépasse en quoi, Thomas? Et un bon leader sait faire des choix et les assumer. Et Jésus était fort dans ça. Jésus l'a invité pour aller guérir la fille des chefs de la synagogue Jaïrus. Il a une délégation des 13, il y a lui puis les 12 disciples. Et puis ils arrivent, on ne sait pas ce qu'il a convaincu, qu'à part lui, il doit y avoir 3. Et la Bible dit, il n'est permis à personne d'entrer, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques. Il dit, frère, vous vous restez. Et les 9 qui restent, il dit, eux, ils sont des apôtres majeurs, nous, on est des apôtres mineurs, nous, on est des apôtres adjoints ou quoi? S'il fait la paix, il dira, bon, pour que certains ne soient pas blessés, tous les 12 entrent. Mais il ne fait pas les choses selon les sentiments. un bon leader doit apprendre à faire des choix. Non, si je ne laisse pas prêcher tel, il va se blesser, il risque d'aller dans l'église d'à côté. Laisse-le aller. La troisième vérité que cette scène nous apprend, c'est que derrière chaque appel de Dieu, il y a un équipement. La Bible dit, éloigné au milieu de ses frères, et écoutez la scène, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là et dans la suite. L'équipement pour devenir ce que Dieu veut. Les gens ont vu un changement. Désormais, il avait une personnalité qu'il n'avait pas avant. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière chaque appel, il y a un équipement. Est-ce que je saurais être à la hauteur? Est-ce que je saurais faire ceci? J'ai jamais oublié, j'ai été pasteur adjoint durant 12 ans à côté de mon pasteur. Quand Philadelphie a voulu commencer, j'ai dit, est-ce que je saurais prêcher chaque dimanche et ne pas lasser les gens? Est-ce que je saurais? Est-ce que, quand Dieu appelle, il équipe. L'Esprit les saisit à partir de ces jours et dans la suite. Mais après cette scène, David a dû subir 13 ans de formation où Dieu a fait ce que les anglophones appellent des input et des output. Plaçant des choses, enlevant des choses, parce que Dieu ne travaille jamais par nous sans avoir travaillé d'abord en nous. Psaume 89 au verset 20 résume cela. Quand par la bouche du prophète, il dit, j'ai prêté mon secours à un héros, mais surtout j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Et le terme élevé en hébreu veut dire éduqué. Je fais passer par une formation. Et puis quand la formation a fini, durant 40 ans, Dieu a pu se servir de cet ex-berger, devenu roi, pour accomplir des choses inimaginables. Transformant un petit royaume quelconque en une force militaire, force économique, force politique. J'aimerais que ce matin, quelqu'un sache que le destin de plusieurs est attaché à toi. Un petit bout d'homme, un petit berger qui ne savait pas qu'il allait transformer toute une nation. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Parce que Dieu a tellement placé, investi en toi. Et psaume 89, verset 25 à 28, nous parle d'une deuxième scène qui s'est passée au-delà de l'onction de Saül. Il semble que Dieu a envoyé un deuxième prophète à David. Et c'est ce prophète qui lui a dit ces choses, psaume 89, 25 à 28. Il dit, va lui dire, ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Va lui dire que sa force s'élèvera, mais par mon nom. Une autre version dit, mon nom les rendra forts. J'aimerais dire à quelqu'un, ta force est attachée au nom de l'Éternel. Et Dieu lui montre comment il va l'étendre. Le verset suivant, il dit, je mettrai sa main sur la mer. C'est que j'aime. Il ne dit pas, il mettra sa main sur la mer. Je. C'est moi qui vais mettre sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Le verset 27, il dit, lui, il m'invoquera pour parler de l'alliance qu'il est censé avoir en disant, tu es mon père. Et le mot père en hébreu veut dire source, d'où je viens, d'où je tire toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux connaître toutes sortes de bonnes choses, fais de Dieu ta source. Lui, il dira, il m'invoquera en disant, tu es mon père, mon Dieu et les rochers de mon salut. Et parce qu'il fera cela, qu'est-ce que Dieu promet au verset suivant? Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé de roi de la terre, si seulement il s'attache à moi. Et au soir de sa vie, tel qu'un roi premier, 32 à 40, et un roi 2, 1 à 10, ainsi que le verset 12 nous les montre, David passe les relais à Salomon, à l'accompagnant comme coach et mentor. Mais on voit surtout, David a tellement bien fait les choses qui lègue un héritage glorieux. Un roi 2, verset 12, dit Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. David a posé les bases. Et quand Salomon est venu après, il n'a fait que recueillir. Il arrive quelquefois, Dieu utilise certaines générations pour préparer les chemins pour d'autres. Baliser, arranger, Moi, je n'ai pas peur de travailler pour mes filles, mes arrière-petits-enfants. Mais si c'est David était ici ce matin, lui qui a été transformé du petit berger qu'il était au grand roi, il nous apprendrait plusieurs choses, mais j'en ai retenu ce matin quatre, j'en parlerai de deux à ce premier culte. La première des choses que David nous donnerait comme leçon, David va sûrement nous dire que le Dieu qui promet, c'est aussi le Dieu qui accomplit. Si David était ici ce matin, il nous dira clairement le Dieu qui promet, c'est aussi le Dieu qui accomplit. David a chanté 73 psaumes, mais dans les 73 psaumes, au moins 45 fois, il chante la fidélité de Dieu. Il chante l'aptitude que Dieu a de faire des promesses et de les réaliser. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu lui dire des choses. Dieu promet à ce petit berger de devenir non seulement un roi, mais le plus grand roi. Et cela s'est accompli. S'il était ici, il allait nous dire, David, qu'entre la promesse et l'accomplissement, il a vécu des choses inimaginables. Les unes bonnes, merveilleuses, désirables, mais les autres, inexplicables. Les autres, amenant le stress, le doute, et même la tendance à l'abandon. J'aime quand dans Jérémie 33, verset 2, la Bible parlant de notre Dieu les présente sous trois formes. Premièrement, comme celui qui conçoit des choses, qui les planifie et qui les exécute. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Mais avant de les faire, il les conçoit et les exécute. Français courant dit qui fait l'événement, mais qui les prépare d'abord et qui les met en place. David, l'ex-berger devenu roi, s'il était ici, il nous parlerait de plusieurs épisodes de sa vie. Il nous parlerait de l'excitation et du sentiment inexplicable qu'il a eu le jour où il a été retiré de la forêt et subitement il a vu l'huile descendre sur sa tête et les prophètes, quelle excitation. Deuxièmement, il nous parlerait sûrement de cette chose merveilleuse qu'il a vécue dans 1 Samuel 16, versets 21 à 22, quand lui, le petit villageois de Bethléem, a été introduit au palais royal. On est venu le chercher, le roi a besoin de toi, sans transition. Combien Dieu peut changer des gens? Et lui, le petit berger, il s'est mis à jouer la harpe pour le grand roi, pour que les gens cherchaient audience. Il nous dira, quand j'étais là, je me demandais, est-ce moi? J'aimerais dire à quelqu'un, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Mais il nous parlerait surtout de sa joie et de son bonheur d'être utile à quelque chose. Quand dans 1 Samuel 16, au verset 23, il jouait la harpe, et David dit, quand David jouait la harpe, la démence du roi Saül partait. Les rois se calmaient. Et quand il retournait chez lui à la maison, il avait cette assurance qu'au travers de sa harpe, il tenait l'avenir de toute une nation. Les rois prendraient des décisions folles si je ne joue pas la harpe. C'est quand je joue la harpe que le roi retrouve ses esprits. Et moi, le petit berger de Bethléem, de ma harpe dépend toute la vie d'une nation. Il partait en disant, Dieu peut rendre quelqu'un donc utile. Il serait ici ce matin. Il nous parlerait de son exploit. Ce jour-là, quand il est parti comme garçon des courses pour aller non seulement donner du pain, de la nourriture à ses frères, mais aussi prendre des nouvelles. C'est un jeune homme anonyme qui est parti. Un héros national en est retourné. Quand l'élite d'Israël est rentrée, 1 Samuel 18, versets 6 à 7, on dit qu'on l'ont chanté, les femmes se répondaient les unes les autres. Saül a tué ses 1000, et David a tué ses 10 000. Qu'il est étonnant comment Dieu peut prendre quelqu'un d'anonyme et placer lui-même son nom dans la bouche des gens. Ne fabrique pas une fausse popularité. Laisse Dieu lui-même le faire.
Et je m'imagine l'étonnement qui devait être le partage du père de Saül, de David, qui avait envoyé un garçon de course. Et il entend Saül a tué ses mille. Et on dit David. Il demande quel David? Mon petit David. Dieu est à l'œuvre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Mais nous parlerons aussi de la face B de l'élévation qu'il a eu à découvrir. La haine, la jalousie et les entrées. J'aimerais dire, quand vient la bénédiction de Dieu, c'est comme une rose, il y a aussi des épines à côté. Ça fait partie du même package. Autant il était excité de changer de cadre, autant il était excité de devenir populaire. Autant dans 1 Samuel 18, versets 10 à 12, il a appris à faire un exercice, il a appris à esquiver des lances. Et les lances qui avaient comme point de départ, celui de qui il avait sauvé la royauté. Il veut l'éliminer. Celui qui Dieu a utilisé pour qu'il soit la solution au problème de Saül, Saül devait l'éliminer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'on se sait appeler par Dieu, si Saül vous lance des flèches, apprenez un seul exercice, esquivez-les. Et vous savez, le problème, quand on vous lance, si ça vous touche, vous êtes détruit. Mais si ça ne vous touche pas, deux choses se passent. Celui qui vous avait lancé est désarmé, et désormais vous êtes armé. Alors vous avez la possibilité de retourner. Mais quand vous savez appeler par Dieu, vous faites chômer votre lance. Il a appris à faire cela. Saül, j'ai la possibilité de te les rendre, mais je ne le ferai pas. Dieu lui-même va le faire. 1 Samuel 19, versets 1 à 17, nous montre deux scènes où David découvre la haine. Une réunion se tient où Saül dit à ses fils, et surtout à Jonathan, il dit, David mérite la mort. Et puis après, Michal sauve David en plaçant une statuette sur les lits. Et on est venu poignarder la statuette. Sûrement les agents d'exécution sont allés apporter les rapports. Roi, mission accomplie, les morts. S'ils avaient des télés à l'époque, des journaux, David est mort. Il montait un scénario, accident mortel sur la route de... Et David a dû passer sur une chaîne pour dire, oh, je suis vivant. J'imagine tous ceux qui avaient annoncé la nouvelle de la mort ont dû être exécutés. Mais s'il était ici ce matin, David nous parlerait surtout de la période des doutes, des difficultés. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous présente pas des héros parfaits. Elle nous présente des héros imparfaits, des vrais humains. De 1 Samuel 22 à 1 Samuel 30, David non seulement découvre la méchanceté des hommes, la traîtrise, le double jeu, le double langage, mais durant cette période, il découvre aussi l'incertitude et la fidélité de Dieu. J'aime ces instants où seul Dieu sait où nous allons. Même nous-mêmes, nous ne savons pas. 1 Samuel 22, verset 3, celui qui avait reçu l'onction, celui qui était excité le jour où on a déposé l'huile sur sa tête, il est obligé de fuir Jérusalem. Et écoutez ce que la Bible dit. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous. » Et j'aime la suite. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Je ne sais pas. Je sais d'où je viens, on m'a envoyé. Je sais où je suis, mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il ne travaille pas. Ah, cette phrase, moi, je l'ai connue. Jusqu'à ce que je sache ce qu'il fera de moi. Mais durant cette période, David a découvert la fidélité de Dieu comme jamais. 1 Samuel 23, verset 15. Au verset 28, David a l'impression que sa dernière heure est arrivée. Les gens ont vendu la mèche en disant à Saül, David se trouve à tel endroit. Et Saül avec ses armées viennent, ils entourent David. et ils sont en train d'avancer de tous les côtés. Et c'est à ce moment que David a composé le psaume 31 où il a chanté le psaume 31 verset 16 où il dit « Mes destinées sont entre tes mains. » J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui tient tes destinées. Aucun homme, le plus fort, le plus armé, ayant je ne sais quelle coalition ne peut te détruire. J'aimerais dire à quelqu'un, l'homme le plus fort, le plus puissant dans ta vie aura au maximum droit à l'avant-dernier mot. Le dernier mot reviendra à celui qui t'a créé. J'ai appris à ne jamais avoir peur d'un homme, quelle que soit sa force, car Dieu seul a le dernier mot. David est coincé, contourné, et il a l'impression que c'est fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Les commentateurs disent que de tous les côtés, ils avaient entouré David pas moins de 900 mètres. Et ils les voyaient venir. C'est à ce moment-là que le service d'intelligence vient dire à Saül, les Philistins ont attaqué le pays. Tu as le choix entre poursuivre cet homme seul, mais quand tu auras fini, tu auras perdu la royauté. Parce que les Philistins sont là. Ou alors, occupe-toi de l'essentiel et puis tu reviendras. J'imagine Saül, s'il était quinoa, il a dit, petit au bic. Mon petit, tu as de la chance. Je reviendrai vers toi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Et quand David voit Saül se retirer, il ne comprend pas. Plus tard, on lui apporte l'information et il appellera cet endroit, c'est là à Makhletot, qui veut dire endroit où Dieu a douci les cœurs. Ça veut dire quoi? Ces battements de cœur étaient arrivés à un niveau. Docteur, on appelle ça quoi quand les battements de cœur augmentent trop? Tachycardie, voilà. Il se disait, un commentateur dit, son cœur ne battait plus là, ça battait là. Parce qu'il avait cru que sa dernière heure était arrivée jusqu'à ce qu'il voit Dieu intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un Dieu. Chez moi, au pays, quelqu'un me dit souvent en prêchant, il dit, Dieu aime agir à moins 5. Quand on a perdu espoir, quand on commence à préparer des solutions de réchange, au cas où Dieu n'agissait pas, voilà ce que je vais faire. Et c'est durant cette période que David a compris plus que jamais la fidélité de Dieu. Écoutez comment il chante cette fidélité. Psaume 33, verset 4. Car la parole de Dieu est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Vous savez, il y a des choses que ne peut chanter que celui qui les a expérimentées. Il va plus loin, psaume 71, verset 22. Il dit, je chanterai non pas ta force, je chanterai non pas ta puissance. Il dit, je chanterai ta fidélité. Je l'ai expérimenté. Comment tu promets et tu accomplis. Psaume 89, au verset 1er. Il dit, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Ma bouche fera connaître à jamais. Je serai un agent de publicité de la fidélité de Dieu. Je dirai aux gens, faites attention. Lui, quand il promet, il accomplit. Vous parlez de sa force. Toi, parlez de sa puissance. Moi, je parlerai de sa fidélité. Ma bouche fera connaître sa fidélité. Et psaume 91, verset 4, il dit quelque chose. J'ai réalisé ce passage ce matin. Dieu me disait que quelqu'un réclame cela. Il dit, te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Mais écoutez, surtout sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Bouclier, cuirasse. J'aurais tellement voulu qu'il ressuscite David et qu'il vienne mieux vous expliquer ces choses. Mais comme j'ai dit, la Bible ne nous présente pas des héros parfaits. Samuel 27, verset 1. Ce qu'il a connu là, Roland Dallo l'a connu aussi. Celui qui avait été excité les jours de la promesse. Celui qui avait été excité quand il a vu Dieu le faire sortir du petit village et l'amener à Bethléem. Celui qui était plein de sentiments d'utilité quand il jouait la harpe. Écoutez ce que la Bible dit. David dit en lui-même. On ne lui dit pas. Je périrai un jour par la main de Saül. Il voit les rapports de force sur le terrain. Il voit comment il a une petite armée derrière. Ils n'ont que des bâtons. Mais il voit l'autre ayant tout. dit, il n'y a pas match. Il veut se dire, sois réaliste. Il veut se dire, comme on était, quand on était étudiant au Homme 10 en 83, qu'on se le dise. Je périrai un jour par la main de Saül. C'est pour ça que je dis, j'aime la sincérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous présente pas des héros parfaits. L'homme de mes aînés, Jean-Baptiste, a connu aussi ça. Au summum de son excitation, de son côté pentecôtiste, sans que quelqu'un les pousse, il a vu Jésus dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui la solution. Il va résoudre tous vos problèmes jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Quand il est arrêté, il est dans le froid d'une prison, seul, il forme une délégation. Il dit, allez dire à ce type, est-il celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? C'est la même personne qui avait dit, voici l'agneau de Dieu. Je périrai un jour par la main de Saül. Quand je lis ça, je pense à un frère qui est chez nous à Kinshasa, Prosper Banzenza. Un jour en 90, où j'avais un cahier plein de promesses de Dieu. Je t'amènerai au-delà des mers et des océans. Je t'amènerai prêcher l'évangile. J'ai réalisé, Prosper a regardé, avant les mers et les océans, qui te donne d'abord des chaussures. Ça fait 2 ans. Toi, tu ne parles que des mers et des océans. J'ai jamais oublié, il m'a regardé en face et dit, Roland, nous disons toujours, nous sommes la tête et non la queue. Roland, entre, clairement entre toi et moi, est-ce qu'on est vraiment la tête? Il dit, pour ne pas faire honte au Seigneur, on dira qu'on n'est pas la queue, mais on n'est pas très loin. Et il n'avait pas tort. N'y a-t-il pas de moments où tu as les promesses de Dieu, mais la réalité te rattrape? Il dit, je périrai. Il veut dire, ça ne sert à rien de croire. Il veut dire, j'ai trop rêvé. Je me suis accroché à des balivernes. Il veut dire, j'aurais dû être réaliste. J'aurais dû être moins rêveur. Mais ce que j'aime, c'est que notre Dieu nous comprend. Mais s'il était ici aussi, il nous parlerait des étapes au travers desquelles Dieu a petit à petit commencé à l'amener vers l'accomplissement. Et vous savez, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des choses qui nous appartiennent, mais que Dieu ne nous confie pas directement. Il confie à un gestionnaire, un gérant appelé les temps. Il dit, c'est à toi de les lui donner. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu entendras les tintamarres de l'horloge, tu es vers un rendez-vous pour des choses que Dieu a prévues pour toi. Si 1 Samuel 22, verset 1 à 2 nous parle des 400 personnes qui l'ont rejoint, remarquez, il ne les a pas invités. Ceux qui avaient des dettes, ceux qui avaient des créances, les rejoignit et il devint leur chef. Vous savez, quand Dieu est avec vous, lui-même fait des choses. Mais la chose qui m'épate, la lecture elle est assez longue, mais j'aimerais juste prendre quelques portions. 1 Chronique 12, verset 1 à 22, nous parle de la deuxième vague importante des personnes que Dieu a amenées à côté de David pour dire ce que les psaumes 7, sur le proverbe 16 au verset 7 dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement. L'original dit toutes choses, même ses ennemis. La Bible nous parle des gens que Dieu a commencé à amener à côté de David. Quand l'Éternel est avec quelqu'un, il fait quelque chose. 1 Chronique 12, 1 à 22 nous parle de cette vague. On parle des archers, des hommes utilisant la main droite et la main gauche, tirant la flèche, les flèches avec leur arc. C'était des archers, lançant des pierres de la main droite, de la main gauche, tirant des flèches avec leur arc. Mais écoutez ce que la Bible dit, ils étaient de Benjamin du nombre des frères de Saül. Tribalisme à outrance, mais parce que Dieu est avec David, il les rejoint. Verset 8 ainsi que verset 14, on nous parle encore d'une deuxième vague. Parmi les gadites, des hommes vaillants partir pour se rendre auprès de David, il ne les invite pas. Dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Des gens que l'on ne peut pas soi-même former parce qu'on n'a pas le temps pour le faire, mais des gens que Dieu forme et vous les amène. J'aimerais dire, quand vous vous attachez au Dieu fidèle, il sait vous amener. Verset 14, On dit c'était des fils de Gad, chef de l'armée. Waouh, écoutez, un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Et c'est cette qualité des personnes. David ne les cherche pas, Dieu les amène. Je prie que tu t'attendes à Dieu et que tu laisses Dieu faire ce qu'il veut. Mais le comble de tout, c'est le verset 22. David est étonné du vide qu'il y avait tout autour de lui à ce qui s'est formé. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour les secourir jusqu'à ce qu'il y eut un grand camp comme un camp de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, laisse Dieu faire des choses pour toi à son rythme et à sa vitesse. Le problème avec toi et moi, c'est que tu veux prendre la place du pilote alors que Dieu t'a placé copilote. Il roule à 40 ou à 60 à l'heure, tu dis, Seigneur, laisse-moi. Si tu es quinoa, tu dis, Colonna Tumba Bougie. Que j'accélère. Dieu dit, laisse-moi faire les choses à mon rythme. Laisse-moi dire à ton voisin, laisse Dieu être Dieu. Et puis voilà. 2 Samuel 3, verset 1. On parle de ce qui se passe. La guerre dura longtemps entre la main de Saül et la maison de David. Mais écoutez les rapports. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait. Il voit la fidélité de Dieu qui se manifeste dans les temps. Petit à petit, les rapports de force changent. Jusqu'au jour où arrive 2 Samuel. Au chapitre 2, verset 4, il est oint pour roi sur deux tribus à Hébron. Quelqu'un peut dire, il m'avait promis le royaume. 12 tribus, mais je n'en ai que deux. Je me redirai à quelqu'un, si tu veux voir Dieu te donner 12 tribus, apprends à te réjouir quand il te donne les deux. Dis-lui, Seigneur, merci pour les deux tribus. Mon pasteur prêchant un jour, il dit, quand tu vois Dieu visiter ton voisin, sache que Dieu est dans les voisinages. Et qu'il finira par venir te visiter. Je ne sais pas quel est le maximum que Dieu t'a promis. Ne reporte pas la réjouissance au maximum. Bénis Dieu pour le minimum déjà. Père, je te rends grâce pour le minimum que tu m'as donné, mais je sais que derrière le minimum se cache le maximum. Ne reporte pas tes réjouissances comme quelque chose qui s'est passé chez nous. Il y a 2 ans, on a promis, je ne sais pas quel jour de l'année, une éclipse générale, en disant que ça sera terrible. Ça allait partir de 7h du matin à 11h. À coup de marketing, on nous a bombardés. Il faut avoir au moins 2 à 3 paires de lunettes parce que tu ne sais pas où ça va te prendre. Et tout Kinshasa en avait au minimum 2. C'est l'une des plus grandes bouches à Kinshasa. Je n'aimerais pas citer son nom pour que je n'ai pas un procès demain. Il nous a matraqués, Arrivé le jour J, 6h30, pas d'éclipse. 8h, pas d'éclipse. 10h, pas d'éclipse. Midi, pas d'éclipse. 15h, pas d'éclipse. 18h, pas d'éclipse. Et les Kinshasa commencent à réclamer. Il nous doit des explications. Ces gars, ils devaient aller à Hollywood ou à Nollywood chez les Nigériens. Le soir, à 20h, il est passé sans rire. Il dit, j'ai communiqué avec le ciel. L'éclipse a été reportée. Je vais dire à quelqu'un, ne reporte pas ta joie. Seigneur, merci pour les deux tribus. Mais je sais que le Dieu qui m'a donné les deux tribus me donnera le reste. Alors qu'il est resté 3 ans et quelques mois en jouissant des deux tribus, 2 Samuel 5, 1 à 3 nous parle de la scène. Les anciens vinrent des Hébron. Je voudrais dire à quelqu'un, le jour où Dieu décide d'accomplir au complet ta promesse, la météo ne va pas l'annoncer. Il n'y aura des fois aucun signe précurseur. David est calmement chez lui, on vient lui dire que les anciens d'Hébron sont venus. Écoutez ce qu'ils disent. Même autrefois, quand Saül était notre roi, c'est toi qui nous conduis. Viens maintenant, on va occuper le trône à Jérusalem. Ça fait 13 ans qu'il a quitté Jérusalem comme un chien enragé, comme une proie. Et je m'imagine chaque pas qui les rapproche de Jérusalem, ils se demandent, est-ce que je rêve ou quoi? Et quand ils entrent dans la ville, ils voient le peuple en émoi. Et j'imagine quand ils entrent, les portails du palais royal s'ouvrent, les gens crient, roi, roi. Ils se demandent, est-ce que je rêve? Il faut me pincer. Je vais me réveiller sur mon lit. Et ils voient les tapis rouges. Son cœur se met à battre. Et il voit les trônes que Dieu lui avait promis et qu'il avait quittés, pour lesquels il avait même dit un jour, je ne pense pas que j'y arriverai. Je m'imagine la scène quand il a quelques pas du trône. Il se met à transpirer. Et puis il s'assied sur ce trône. Je l'entends dire, enfin. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un dans les jours qui viennent, quelqu'un, il se va dire, enfin. Parce que c'est que Dieu promet finit toujours par s'accomplir. Il a vu comment Dieu a transformé une parole en la faisant devenir réalité. Mais ce matin, j'aimerais en 5 minutes terminer en parlant de la deuxième leçon. Si David était ici, il nous apprendrait aussi qu'il y a des choses que ni les hommes, ni l'adversité n'arrive à faire en nous, mais que l'accomplissement des promesses de Dieu peut faire, c'est de nous détruire et de nous dévier. J'aimerais le répéter, il y a des choses que ni les hommes, ni l'adversité n'arrivent à faire en nous, mais qu'une chose, l'accomplissement des promesses de Dieu, souvent arrive à faire, c'est nous détruire et nous dévier. Si David était ici ce matin, il nous dira, attention, il faut bien gérer la période où Dieu accomplit les promesses. Il nous dira, l'accomplissement peut être un cimetière. Parce que 2 Samuel chapitre 11 que nous avons lu, nous montre combien la personne qui a eu à souffrir, à peiner et à s'attacher à Dieu, à peine quelques mois que Dieu l'ait élevé, il y a un relâchement dans son chef. De Samuel 11, premier verset au verset 3e, le montre. L'élite d'Israël va combattre sur les champs de bataille. David décide de rester. Et non seulement qu'il reste, il voit une femme qui se baigne, femme d'autrui, et pose la bonne question, on lui donne la bonne réponse, mais elle a la mauvaise attitude. Amenez-moi cette femme. C'est lui qui hier, quand il voulait outrepasser les limites établies par Dieu en voulant toucher Saül, il sentait son cœur battre. Mais quand l'accomplissement arrive, il veut toucher la femme d'autrui, son cœur ne bat plus. Que des fois, c'est l'accomplissement des promesses qui nous détruit. Il est étonnant, j'aime beaucoup le sport et surtout le football. Et j'ai suivi plusieurs commentateurs disent le plus grand moment de fragilité dans une équipe de football, c'est quand ils ont marqué un but. Et il est prouvé la plupart des fois, si l'entraîneur n'est pas prudent, dans les 5 minutes qui suivent, les temps que vous avez marqué, on vous marque aussi parce qu'il y a comme un relâchement. Et vous voyez souvent l'entraîneur, quand l'équipe a marqué, les gens se réjouissent, ne se réjouissent pas. Hey, numéro 2, hey, reste, hey, hey. Pourquoi? Il sait qu'après la réussite, il y a tendance au relâchement. Aide-moi à dire à ton voisin, ne te relâche pas. Pasteur Hugues, tu es un jeune frère pour moi. Permets-moi les termes, j'ai vu comment tu as cravaché. J'ai vu comment Dieu a commencé à faire. Je te supplie, ne te relâche pas. C'est que tu as vu n'est qu'un minimum. Dieu peut t'amener à un niveau inimaginable. Ma Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu les confie des grandes. Et le relâchement est très dangereux. Proverbe 18, verset 9 dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Il est étonnant de voir combien de personnes fautent, s'égarent après des grands accomplissements. Je prendrai 3 exemples et puis nous allons finir ce matin. Genèse 9, 21, l'homme le plus droit, le plus intègre, le plus discipliné de son époque, Noé, il s'appelait. L'évangéliste qui a tenu contre vents et marées, construisant cette arche, symbole de la foi. Et la Bible, au travers de cet acte, il a condamné les gens de son époque. Dieu l'a fait rentrer dans l'arche et Dieu a fermé la porte de l'arche. Les eaux du déluge sont tombées durant plus de 150 jours. Ils sont restés dedans le temps que les eaux puissent sécher jusqu'au jour où Dieu ouvre les portes de l'arche. Étonnant ce qui arrive. Il sort, il rend grâce à Dieu et Dieu accepte cette offrande. Et quand Dieu accepte l'offrande, il avait dit, Dieu sentit l'odeur et Dieu jura, plus jamais je ne vais détruire le monde par les eaux du déluge. Juste après, il but du vin et s'enivra et s'est découvert au milieu des attentes. Qu'il est étonnant comment nous pouvons, juste après des grandes victoires, nous relâcher. Dieu vient d'agir. C'est Noé. Alléluia. Et Dieu regarde et dit, tout ça pour ça. Je fais tout ça pour qu'il en arrive là. Ma force est de l'avoir préservé. Seigneur, si tu sais que je ne vais pas bien gérer, le moment de l'accomplissement ne me donne pas. Genèse chapitre 19, verset 32 à 38. Nous parle de Lot et ses filles. Lot et ses filles résistent à la saleté de Sodome et Gomorrhe. Des gens sans foi ni loi. Des gens qui ont la tête à l'envers. Et Lot et ses filles résistent. Et non seulement qu'ils résistent, ils voient Dieu faire tomber un feu de soufre. La contrée est brûlée. Alors qu'ils s'avancent avec leur mère et l'épouse de Lot, elle veut retourner regardant en arrière, transformée en statuette de sel. Ah, quelque chose arrive. Au sortir, les filles enivrent leur père et couchent avec. L'aîné d'abord. La cadette fait la même chose. Qu'il est étonnant de savoir que juste après les grandes actions de Dieu, les gens se relâchent. Seigneur, aide-moi à ne pas me relâcher. Exode 32, versets 6 à 8. Ils ont été esclaves en Israël, en Égypte plutôt, longtemps. Écrasés par Pharaon et les Égyptiens. Et Dieu décide de les libérer. Libération à suspense. Ne sont-ils pas arrivés devant la mer Rouge où ils voient un obstacle naturel, les eaux, et derrière l'armée, ils se demandent, Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Et Dieu a fondu les eaux de la mer Rouge et ils sont sortis victorieux. Et la Bible dit, en ces jours-là, le peuple crut en Dieu et crut en Moïse, son serviteur. Ils avancent, ils rencontrent les eaux de Marah, ils veulent murmurer. Moïse prie et les eaux de Marah sont transformées. Il pousse encore plus loin. Pour la première fois, il rencontre une armée réunie, les Amalécites. Et ils ne sont pas habitués au combat. Et ils expérimentent une grande victoire. Non pas à cause de l'élite qui est sur le terrain, mais à cause de l'intervention de Dieu. Moïse a les mains levées. Aaron et Hur les soutiennent. Et une armée est montée de toutes pièces. Combat sur le terrain, mais à la victoire à cause de la force spirituelle. Mais juste quelques temps après, Dieu appelle Moïse sur la montagne et quelque chose se passe. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Écoutez la suite. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Le mot divertir, c'est le côté pudique, pour ne pas dire pudibon, de Louis II. Ce mot divertir en hébreu dire se livrer à des orgies. Ils se mirent à boire, à danser, et désormais il n'y avait plus de barrières. N'importe qui pouvait prendre la femme de n'importe qui et n'importe quel homme pour se réjouir. Et Dieu voit ça. J'ai déployé toute ma force pour qu'ils en arrivent à ça.
baisser nos têtes dans la